des poèmes Polaroid ou des montages de fragments comme Didier Philippotto, à ma droite, qui, ou elle, crée des revues. Alors, je rappelle que Sally Bone, tout récemment, a créé une revue avec Anna Buneau, Elodie Sartel et la photographe Anne-Lise Broyer, qui s'intitule « Les chambres, une revue d'art et d'écriture ». Et je précise que « art » et « écriture » sont au pluriel. François Massu, qui n'est pas là malheureusement pour un empêchement de dernière minute, dirige la revue Docs. Et Didier Philippotto, le désopilant, que je présente ici. Voilà. Le désopilant, revue que l'on peut gagner si on répond à une question mystère. Je laisserai Didier Philippotto expliquer tout à l'heure. Qu'il s'agisse aussi seul ou en communauté, celui qui les conduit à partager une scène ou un sommaire avec, par exemple, Julien Blaine, Serge Pey, Hélène Lanscott ou Guylaine Monnier, ou qu'ils agissent en collectif, comme François Massu avec le collectif Art Faber ou Poesy is not dead, ou Didier Philippotto avec le collectif Le Désopilant. Et même si on peut dire qu'un collectif commence à partir de deux, je rappelle que Didier se produit avec le guitariste Benoît Nicomède pour un poème sonore intitulé Julia Minsk, ou avec Michel Berthier pour la création de poèmes électroniques. Donc nous voyons qu'il s'agit de toutes sortes de pratiques, et dans toutes ces pratiques, il y a autant de poéticité que de médialité. Alors, s'intéresser à la poésie hors du livre, c'est-à-dire ses conditions de possibilité, les pratiques qu'elle recoupe, leur réalisation, prend pour cette édition-là, tout à l'heure l'a dit Vincent, une signification particulière et une dimension récapitulative des éditions précédentes, puisque dans notre discussion, il s'agira autant d'un état des lieux, comme en 2017, que d'une prospective qui était envisagée en 2018 avec l'intitulé « Le devenir du poème ». Dans la perspective dynamique de ces métamorphoses, comme en 2019, dans la perspective aussi de la matérialité du poème, l'édition de 2023 était dédiée au son du poème, ou de sa traductibilité, comme en 2024, et enfin s'interrogeant sur le fonctionnement, les ressorts du poème, comme l'édition de 2022 qui interrogeait la pensée, ou les finalités telles que le voulait l'édition de 2021. On va recouper tous ces thèmes, vous le verrez dans la discussion. Alors pour commencer, dans son ouvrage intitulé « Écrire, écrire, écrire » paru en 2022 aux éditions Arléa, Sally Bone, ici présente, cite Francis Ponge, et cela n'est pas sans me plaire. Francis Ponge écrit un matin de décembre 1976 qu'il n'y a plus qu'à écrire sur elle, c'est-à-dire la table. Il se trouve que ce qui nous réunit ici, c'est que nous menons tous, avec nos moyens et différents médiums, une action et une réflexion quant aux pratiques d'écriture, pour reprendre un autre titre de Ponge, et plus largement aux pratiques poétiques et à leurs dispositifs, pour reprendre une formulation de Jean-Marie Glaise, qui ensuite a été travaillée par Christophe Anna. Donc on voit qu'il s'agit d'une dimension pragmatique de la poésie, qui envisage l'acte poétique de sa conception et de sa production à sa diffusion, et également d'une question éthique qui place la fabrique du poétique et ses réalisations effectives au cœur de l'attention, nous engageant à méditer sur nos puissances d'agir, pour reprendre la formule de Ricoeur, jusque dans ses implications politiques. Donc nous allons amorcer un parcours de réflexion où je vais être amenée à interroger nos différents invités sur les filiations, sur les auteurs ou les artistes qui ont compté dans leur démarche, pour commencer. Ensuite, nous parlerons des gestes, du geste premier, c'est-à-dire à la fois du commencement, mais aussi de la place centrale accordée aux gestes dans les différentes pratiques que chacun poursuit. Ensuite, nous parlerons du corps et de l'espace, du collectif, nous envisagerons les questions d'hybridité, et pour terminer sur la question de l'adresse du poème, et je vous regarde en le disant puisque vous êtes notre public en direct. Alors pour commencer, je ne sais pas Peut-être je vais demander à Fabrice et à Didier le livre de Fabrice qui s'appelle « Un homme seul marche ». Était dédié à Serge Pey. Il a été édité en 2010 aux éditions du Soir et du Matin avec des encres de Claire Emery. Dernier télégramme, ta maison d'édition, a participé à l'édition d'un triptyque d'éditions musicales et littéraires issu de 3 journées de rencontres en 2013. Les dialogues des arts contemporains auxquels participait Julien Blaine. Julien Blaine, dont la revue Dox, dont j'ai parlé tout à l'heure à propos de François Massue, avait fondé en 1976, et donc cette revue Docs est maintenant dirigée par François et Xavier Dandois de Casabianca depuis 2021. Donc peut-être je peux commencer à m'adresser à Fabrice, et ensuite peut-être à Didier et enfin Sally, sur la question des figures tutélaires, Serge Pey, Julien Blaine, mais peut-être d'autres personnes qui ont provoqué l'envie de fabriquer à son tour du poétique.
Alors en effet, Serge Pey, Julien Blaine, mais il va y avoir aussi d'autres figures. Alors chez les vivants, pour moi, il y a inévitablement Esther Ferrer, Lucien Suel aussi. Et après, il y a des lectures aussi plus simples, on va dire, qui font partie pour moi d'une existence du poème hors publication. Et chez les morts, il y a Robert Filliou et Raoul Haussmann qui sont importants aussi dans cette idée de l'extériorité et de prise de possession du réel, au final, et de faire du réel la matière même de l'action poétique. Ensuite, assez rapidement, mais je vais dire que j'ai, dans le cadre des éditions Dernier Télégramme, il y a une grande partie des auteurs avec lesquels j'ai travaillé où leur rencontre s'est faite véritablement lors de lectures ou de performances. Et donc il avait fallu cette première rencontre physique pour que j'aie envie d'entamer un échange et ensuite que cela devienne un livre éventuellement, mais aussi l'occasion de créer des événements pour être dans des espaces divers et variés. Et on pourra parler aussi des espaces dans lesquels peuvent exister ces différentes actions à l'extérieur.
C'est juste. Alors peut-être que justement sur cette question de la rencontre sur scène qui provoque peut-être l'envie de travailler, peut-être que Didier, les figures tutélaires ou les compagnons de longue route.
En fait, dans la poésie, moi j'ai dans le livre, il y avait Rilke, le chant de l'amour et de la mort. Cornette Christophe, Rilke. Il y a aussi Joé Bousquet. Et puis ensuite, je suis tombé sur un enregistrement de Bernard Hetzig, tout autour de Vaduze. Donc là, ça m'a. Et puis aussi une performance de Serge Pey, là, qui dialoguait avec un bâton chamanique. Et bon, bah voilà. Et puis après, c'est dans les pratiques au quotidien, c'est. C'est écrire, mais écrire avec tout ce qu'on peut, la voix, la peinture, mais ça c'est autre chose. Mais les figures tutélaires, ouais, voilà les trois.
Très bien, merci. Bon, on va y revenir par la suite. Alors Sally, peut-être je peux quand même poser la question, puisque dans écrire, c'est quand même un livre qui rejoint la réflexion, l'enquête en esthétique sur les gestes d'écriture, mais c'est aussi l'interrogation sur son propre geste d'écriture. Et parmi les grandes figures qu'il y a dans le livre, il y a donc les personnes rencontrées au fur et à mesure de l'enquête, dont les noms sont cités à la fin du livre d'ailleurs, mais pas dans le récit. Il y a une photo de Benjamin. Donc voilà, j'ai fait une...
Ça s'appelle divulgaché, là. Alors effectivement, la question, c'est une question très difficile de savoir quelle serait une figure tutélaire. En y réfléchissant longuement, je me suis dit que c'était sans doute Walter Benjamin parce que d'abord parce que moi je viens du champ de la théorie, notamment la théorie esthétique, mais que c'était une figure qui permettait d'interroger le croisement entre différentes disciplines, parce qu'il se situe à l'endroit de ce que son ami, le philosophe allemand Théodore Adorno, appelait l'effrangement des arts, et que c'est aussi à cet endroit-là que j'essaye de travailler, donc, parce que c'est dans le champ de la théorie critique et de la philosophie moderne, c'est quand même un auteur qui a interrogé qui s'est penché au sens le plus, peut-être le plus noble sur à la fois la littérature et la poésie. Il a écrit sur Kafka, il a écrit sur Proust, il a écrit sur Baudelaire, sur l'art ou les arts, notamment la photographie, on le sait, mais aussi sur la peinture, puisqu'il s'intéressait beaucoup à la peinture de Klee, par exemple, sur le cinéma aussi, et sur les rêves, par exemple. Et donc, il me semble qu'il y a, dans la figure de cet auteur-là, et dans son écriture elle-même, qui n'est pas une écriture foncièrement théorique, mais qui est aussi une dimension très littéraire et qui m'intéresse, cette puissance d'étoilement, en fait, qui me semble aussi être une sorte de, comment dire, d'outil, au sens où, quel que soit l'endroit où j'essaye de travailler, c'est souvent vers lui que je reviens. Voilà, donc c'est plutôt de chez les morts, hein, c'est plutôt aux morts que je m'adresse en l'occurrence. Mais c'est vrai que ce soit dans le champ artistique, dans le champ littéraire, dans le champ poétique ou dans le champ purement philosophique, il est là en fait. Donc voilà, ça me semblait réfléchir à une figure tutélaire, il est apparu comme une sorte d'évidence parce qu'il est au croisement d'un ensemble de disciplines. Qui sont aussi celles que j'essaye d'entrecroiser.
Exact. Mais justement, dans cette enquête, tu essaies de définir les gestes d'écriture, et peut-être qu'on pourrait, à propos du geste premier, donc de l'idée de commencer, hein, commencer à créer, mais aussi du fait que ces créations mettent le geste au centre, peut-être que tu pourrais nous exposer. Alors je sais que ça... Voilà, c'est un sujet en soi dont tu as parlé récemment au CIPM, d'ailleurs, lors d'une longue conférence. Donc, je suis désolée de demander une synthèse de quelques minutes, mais peut-être ce serait intéressant de réfléchir à ce que tu proposes comme réflexion sur les gestes d'écriture et à cette définition que tu fais de... Là, je le dis pour nos deux créateurs présents, la définition de l'écriture comme une suite de gestes. Peut-être que vous verrez ou pas, vous avez le droit aussi de ne pas répondre. Savoir ce que ça évoque pour vous, cette définition de suite, une suite de gestes comme définition de l'écriture. Mais Sally, je te laisse peut-être expliquer.
Alors, j'ai entamé une recherche sur ce que j'appelle les gestes d'écriture depuis quelques années, qui prend la forme d'une enquête que j'adresse à des poètes, des écrivains et des artistes, dans tous les domaines, de différentes générations. Et je leur pose simplement une question... une seule question, et ils peuvent me répondre soit par du texte, soit par du dessin, soit par... tout est possible comme forme de réponse, et c'est ce qui m'intéresse d'ailleurs, de récolter ce que ça peut vouloir signifier, cette formule, l'écriture en tant que suite de gestes, qui est une formule qui est en fait... parce que ce qui m'intéressait, c'était la question de la scription, au sens barthésien, c'est-à-dire vraiment le geste, le scriptible, c'est-à-dire en fait le geste d'écrire, pur et simple. Et puisqu'il a été cité, je crois, par toi, Fabrice... J'étais tombée une fois sur une image de Julien Blaine où il jette des lettres comme ça. Il y a sa main qui jette des lettres, et puis il écrit à la main en dessous. L'écriture n'étant pas la suite de gestes, mais ce qui précède et ce qui a suivi. Et donc, partant de là, j'ai voulu interroger ce que c'était que cette scription. Qu'est-ce qu'elle signifiait, à la fois d'un point de vue théorique, mais aussi d'un point de vue extrêmement concret, c'est-à-dire
physique.
Qu'est-ce que c'est le geste d'écrire, en fait ? Qu'est-ce que c'est en termes de posture, en termes de rapport au corps, en termes de rapport à l'outil, sachant que l'écriture passe toujours par un outil, quel qu'il soit, hein, depuis le geste archaïque de l'écriture sumérienne jusqu'à taper à la machine ou sur son téléphone, il y a cet outil-là. Et donc, comment on se situe physiquement par rapport à cet outil-là, comment on le prend en main, comment on le prend en charge, et aussi avec cette idée qu'il y a dans le geste d'écriture quelque chose qui n'exclut pas du tout le sens, au contraire, ramènerait à quelque chose du sens, c'est-à-dire aussi trouver le sens du geste d'écriture, mais à travers une corporéité ou une corporalité.
Et alors, je ne sais pas, qu'est-ce que cette définition et cette question du geste et du... Est-ce que ça vous évoque par rapport à votre travail ?
Moi, en ce qui me concerne dans le travail au quotidien, bon, l'écriture, ça passe par le stylo. Ça passe par le stylo et puis la feuille de papier. Mais c'est vrai que, par exemple, en ce moment, mon carnet d'écriture, ça ressemble à une feuille. Bon, celle-là, elle est passée à la machine. Hein, donc, involontairement. Hein. Mais en fait, ce qui est par rapport à ce que disait Sally, ce qui m'intéresse, c'est que le fait que la feuille soit découpée et puis que les cases soient séquencées, en fait, c'est vrai que ça change le rapport à l'écriture. Ça va obliger à faire une écriture brève, et puis ça va donner des formes qui vont se répondre les uns les autres. Alors là, c'était en fait ça agit beaucoup de ma création en tout cas. Pas de la création collective, mais ça dépend du support. En fait, c'est un imprimeur qui m'a donné tout un stock de feuilles de papier, donc c'est devenu ça. Il y a eu une autre... Là, je suis tombé sur une ramette de papier dans les archives du travail. Donc, ça a découpé, et en fait, le geste d'écrire, il est ici. Et en fait, c'est en fonction des tâches qu'il y avait sur les feuilles originelles qui ont été jouées, en fait, tout le texte qui se découle est directement inspiré aussi du support du média. Alors après, donc ça donne comme ça, et c'est vrai que ce qui va s'écrire sur ce feuillet-là n'a rien à voir, a priori, dans mon expérience, avec ça. Alors après, il y a un copain qui m'a donné une machine à écrire, une vieille machine à écrire, et en fait, il y a toute une série d'écritures qui sont donc encore une ramette de feuilles qui a été donnée, et c'est vrai que la machine à écrire, le bruit de la machine à écrire, le fait de frapper les cartes... Enfin, de frapper les lettres, voilà, ça donne tout un jeu qui fait que ça produit aussi. Alors, la machine à écrire sur ces petites cartes-là, c'est vrai que ça écrit pas du tout pareil que là, c'était une feuille qui a été publiée au vent dernier. Et en fait, c'est toujours la même machine à écrire, cartographie du souffle au vent dernier. Et en fait, le jeu avec le rouleau là ici est super important dans le geste, enfin dans l'écriture, quoi. L'écriture, ça va passer par le bruit, ça va passer par la manière dont la machine marque, et puis par les allers-retours qu'on fait physiquement avec le rouleau du truc. Et là, c'est mon oncle qui récemment, lui, m'a offert un pinceau chinois. Donc là, c'est pareil. On arrive un petit peu dans des chinoiseries. On appelle ça des chinoiseries. Donc il reste encore des cartes qui ont été frappés avec la machine, mais c'est vrai que écrire avec ce pinceau, en fait, ça change complètement le rapport et dans le temps et dans le geste sur ce qui va être écrit. C'est-à-dire que là, moi je pense que effectivement, le média, ce avec quoi on va écrire, ça change ce qui est produit, quoi.
Et là, en t'écoutant, on a l'impression que c'est la rencontre avec... C'est une suggestion, un papier qu'on donne.
Ah oui.
Voilà, c'est...
C'est-à-dire que là, il y avait...
Il n'y a pas de projet préalable, c'est plutôt... je découvre un matériau et j'essaie d'en faire quelque chose.
Et on joue avec. Il y avait toute une série, ça s'appelait les califragments. En fait, c'est un ami qui m'a ouvert une page Quarks. Et puis, une fois qu'on a le logiciel, là, c'était sur l'ordinateur, ben on s'amuse avec. On s'amuse avec. Et l'amusement passe par l'écriture. Et du coup, l'écriture va générer tout un imaginaire qui va se développer grâce au support. Ouais.
Juste cartographie du souffle, c'est quelle maison d'édition déjà? J'ai oublié.
Les Venterniers.
Les
Venterniers, ah, juste oui. Sur la gauche.
C'est très beau. Oui, je ne sais plus le stand, mais vous trouverez. Voilà. Et Fabrice, est-ce que tu vas ajouter quelque chose ou...
Donc, tu parlais d'une suite de gestes, c'est ça?
Voilà,
donc c'est le terme suite qui m'intéresse, moi. Ça veut dire qu'il y en a plusieurs et qui ne sont pas les mêmes, forcément. Ça peut signifier donc une sorte de chronologie, peut-être, d'un acte aussi, et donc d'une pensée. Mais chez moi, ça ferait plutôt écho à une sorte de rapport au corps. Parce que là, c'est au corps et à l'espace, quoi. Que ce soit l'espace d'une chambre, d'un bureau ou l'espace extérieur. Et comment le geste d'écriture commencerait déjà par une déambulation, par exemple. Soit une déambulation physique, soit une déambulation mentale. Et que c'est un ensemble... une suite de gestes donc qui constitue un processus de création en lien évidemment avec ce que peut percevoir et mettre en place le corps.
Oui, oui et... alors on le voit dans ton travail, par exemple, dans Un corps contre la terre, que tu as publié en 2010 aux éditions des Vanneaux. Il y a aussi Cosmos Sosmos, avec d'ailleurs des dessins de Serge P pour Sosmos, qui sont parus aux éditions du Soir et du Matin en 2012. Et puis cette question du corps et de l'espace, tu l'as travaillé aussi dans La Falaise, avec la rencontre avec le paysage, on va dire rencontre à la fois charmante et brutale, qui est publiée par Ancrage & Co. en 2014. Et c'est vrai que c'est central dans ton travail, mais elle s'extend aussi dans ton travail avec l'acte d'énoncer sur scène, de lire.
Oui.
Je pense qu'il y a cette mise à l'épreuve aussi du corps dans la lecture du texte qu'on a écrit.
La lecture, c'est un des gestes
qui poursuit,
puis c'est surtout que la lecture intervienne. Alors elle peut intervenir avant une publication ou après. Mais en tous les cas, ça reste toujours un espace de poursuite, de construction potentielle du texte. Oui. C'est-à-dire que le texte, il n'est jamais totalement figé, même s'il est dans un support papier. Il peut exister par la voix et surtout, il se met dans une position là, très particulière quand on est face à un public, d'être dans une idée de communication. Et donc, comment le texte, l'autre va se l'approprier et en faire quelque chose qui lui appartienne. Après, ça existe aussi dans la lecture. C'est toujours le lecteur ou celui qui écoute qui termine le texte. Enfin, c'est pas de moi, ça, je sais plus qui c'est, mais j'aime beaucoup cette idée-là qu'il n'y ait rien qui nous appartienne, si ce n'est ce que nous sommes en train de faire au moment où nous le sommes, où nous le faisons. Mais le reste, ça appartient à celui qui est en face de nous. Et parce qu'il faut casser un peu les stéréotypes autour de... Enfin, du poète maudit ou des choses comme ça. Et en fait, on vit avec les autres. Et c'est ça qui est assez central, à mon avis... dans ce qu'on essaie de faire, c'est un acte politique au bon sens du terme, de vouloir dire ou d'intervenir dans des espaces, quels qu'ils soient.
Oui, on a parlé de Blaine tout à l'heure, c'est aussi ce mouvement qu'il a lancé de la poésie-action, alors évidemment, qui a aussi été exploré dans d'autres domaines, du côté des arts plastiques, pas seulement en France, mais aussi notamment chez les anglo-saxons. Peut-être que justement, cette notion de... performance de la lecture ou de poésie performance, mais ça je sais pas si c'est d'ailleurs une appellation qui vous convient. Voilà, ce besoin de prolonger le geste sur la scène, Didier.
Je sais pas, sur le mot performance, en fait, c'est vrai que quand on dit tiens, tu pourrais venir nous faire une performance, je sais pas si le mot convient non plus. Bon, d'un autre côté, c'est pas bien grave. Ce qui est certain, c'est que moi, en ce qui me concerne, quand on me demande une lecture, bon, ça ressemblera plutôt, enfin rapidement, ça va changer, métamorphoser un petit peu en cri, parce que ce qui m'intéresse aussi, c'est de prolonger la lecture, de le prolonger dans le corps. Et quand ça pousse sur la voix, quand ça pousse sur les abdominaux ou quoi, bon bah ça fait vraiment partie de la lecture. Quand ça va se déplier sur la scène avec des gestes, ça fait partie de la lecture. Par exemple, ici c'est les éditions de l'Improbable. On avait sorti un tarot poétique.
J'ai l'impression de faire le téléachat.
Ouais, c'est super. Oui. Et en fait, dans toutes ces cartes-là, il y a quatre univers. Un univers à cœur, un univers à trèfle, un univers à carreau et à pique. Et en fait, l'interprétation, la mise en corps, la mise en voix, en fonction de la couleur, elle n'est pas du tout la même. Et ça fait plaisir vraiment du jeu. Et derrière, il y a des QR codes qui renvoient à une musique électronique.
D'accord.
Ce qui fait que sur scène, donc c'est Michel Berthier, c'est un ami qui fait de la composition
musique
électronique.
Ouais.
Et en fait, si les textes, quand on arrive sur scène, les textes sont écrits, en fait, le texte sera toujours réécrit au moment de l'interprétation parce que à un moment donné, la parole, le corps, la voix va se couler dans le son. Et puis, se coulant dans le son, elle va commencer à voyager de manière autonome. Donc, en fait ça termine toujours par un prolongement de l'écriture. C'est, oui, l'espace, oui, le son, oui, le corps, en performance, alors, ou en lecture, a une véritable incidence de recréation.
Et puis aussi, visiblement, oui, au collectif, c'est-à-dire travailler avec d'autres, notamment des musiciens.
Ah, absolument, ouais.
Fabrice, je ne sais pas si tu as déjà fait des lectures avec musique. Oui. Donc, justement, ce travail d'alliance entre les arts, est-ce que tu peux en parler un peu en rebondissant sur ce que venait Tillier?
C'est une pratique assez courante, quoi, de lire avec des musiciens. Ensuite... Effectivement, ce sont plutôt les musiciens de la musique improvisée ou du jazz qui ont commencé à faire ces choses-là, enfin le plus, mais après n'importe... Il y a un truc assez évident pour les musiciens que j'ai rencontrés.
D'accord.
Et pour,
c'est des rencontres, en fait,
les rencontres se font, ben oui, voilà, c'est surtout ça. Et en général, ça se passe plutôt bien, quoi. C'est aussi un dialogue, et puis c'est une autre façon de... à la fois de faire découvrir un texte, mais à la fois de faire entendre aussi du son, quoi. Mmh. Et puis moi, je veux bien... c'est pas grave si on comprend pas tout ce qui se passe à ce moment-là, et même si on n'entend pas tout le texte.
C'est une immersion...
Oui, voilà, c'est plus un état...
La dimension de corporealité dont on parlait tout à l'heure.
Oui, oui, mais après, la poésie, elle s'est jamais restreinte à quoi que ce soit, donc... Donc elle travaille avec, elle est visuelle, elle est graphique, elle est sonore, elle est tout ce qu'on veut, quoi. Et elle travaille avec toutes les possibilités et aussi avec les nouvelles technologies et avec, chaque fois qu'il y a une invention nouvelle, la poésie d'une façon ou d'une autre va s'en emparer. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Donc la musique, oui, mais tout aussi, tout ce qui existe au fur et à mesure, quoi.
Des rencontres, c'est ça.
Je trouve que quand on est sur scène, enfin moi ça me fait ça à chaque fois, dès que le musicien, là c'était un contrebassiste qui est arrivé, dès que qui pose le doigt sur la corde et que la corde commence à vibrer, ça change tout. Voilà, on est parti ailleurs et l'aventure commence, le voyage commence de ce moment-là, cette soirée-là. Et le plus dur là-dedans, c'est de réussir à tenir et pas de se laisser enfermer, de rester toujours dans cette alchimie que l'autre apporte. Pour pouvoir toi jouer, et je pense que ça fait le ping-pong, quoi. Mm-hmm. Mais c'est vrai que ça change tout, enfin pour moi.
D'accord. Et d'une certaine manière, donc c'est oui aussi, tu disais oui au son, oui à la musique, oui à la rencontre avec d'autres artistes, et au fond c'est oui aussi à une hybridité et à la création plutôt d'objets poétiques entre guillemets non identifiés qui pousse toujours plus loin la recherche, c'est ça? Et la création de nouvelles formes, seule ou en collectif?
Oui. Au maximum, oui. Ouais. Toutes les rencontres, tous les lieux de fusion, tous les lieux d'hybridation, moi et des opilants, on est pour, on adore ça. Oui, oui, oui.
Alors justement, j'ai besoin d'une définition d'une forme hybride que je n'ai pas identifiée. C'est les califragments vestigiaux. Est-ce que tu peux nous expliquer?
Alors là, c'est génial programme. Parce que les califragments des vestigiaux, en fait, ça n'existe pas. Donc, en fait, c'est une hybridation de la machine. Je sais pas quelle machine a sorti le vestigiaux, mais j'adore. Du coup, on va le réexploiter. Et les califragments, par contre, ça existe. Alors, ça s'appelle les cyborgisomes. Les cyborgisomes, on avait fait un petit dictionnaire de néolingue. Et on travaillait, parce que je suis prof par ailleurs, on travaillait sur les mots valises. Et le cyborgisme, c'est toutes les créations que produit la machine malgré toi. Bon, le plus simple, c'est faire de la dictée vocale. Là, maintenant, c'est moche parce que ça marche de mieux en mieux, donc ça se trompe plus. Mais il fut un temps où on dictait le texte à la machine et on récupérait des résultats complètement hallucinants, quoi. Ça, c'est un cyborgisme. Un mélange, l'hybridation de ta parole avec la machine, et puis tu cohabites avec et tu co-crées avec la machine. Ce qui vient de se passer pour les califragments. D'accord. Et les califragments, en fait, c'est toute une série de textes visuels qui ont été produits avec, en bidouillant avec le logiciel Quarks.
D'accord.
Donc c'est le dessin au fur et à mesure, et comme le dessin permettait de générer des lettres, en fait c'est ça qui a produit toute une série de 15 textes qu'on a appelés les califragments. Mmh. Voilà.
Alors vous êtes justement, alors pour continuer sur cette réflexion d'objets, produits, comme vous êtes éditeurs aussi tous les deux, je me posais cette question. Alors, et puis au fond ça concerne, pardon Sally, parce qu'on est aussi concerné quand on produit des textes dans une revue. Donc je pense que voilà, cette question doit te travailler aussi. C'est les défis qui se posent justement pour fabriquer des objets poétiques non identifiés, pour en conserver une trace ou justement ne pas en conserver une trace, et puis aussi fabriquer de l'éphémère, c'est-à-dire on n'est pas obligé non plus d'imprimer ou de conserver ou d'enregistrer. Il y a aussi une beauté de la production immédiate, mais une expérience collective que tout le monde a pu faire, c'est le souvenir d'un beau concert. Le souvenir d'un beau concert qui n'a pas été enregistré, c'est quelque chose qui reste dans le souvenir, auquel on repense mais qu'on ne retrouvera jamais. Et il y a cette beauté de l'émotion ressentie face à quelque chose, alors quel que soit le genre de musique, classique, jazz, électro, peu importe, pop, on a tous une expérience d'émotion intense ressentie devant un moment particulièrement beau et qui n'a pas été enregistré. Donc ma question pour tous les trois, c'est comment vous envisagez, et dans l'ordre que vous voulez d'ailleurs, cette question-là, c'est-à-dire de comment on conserve ces objets fabriqués hybrides, ou comment on choisit justement de rester dans l'éphémère et de produire aussi des objets mais qui vont rester dans le souvenir et dont on ne gardera pas la trace. Voilà, c'est une grande question, ça pourrait presque une table ronde. Mais Fabrice, peut-être que ça permet de parler un peu de dernier télégramme aussi.
Merci. Alors, moi, j'apprécie beaucoup les objets, voilà. Mais j'aime aussi énormément les choses, comme tu éphémère. Viens d'évoquer, éphémères. C'est un moment et c'est très bien comme ça. Voilà. Et je pense qu'on n'est pas obligé de garder trace de tout, qu'il y a des choses qui sont faites. Dans la performance, c'était quand même beaucoup ça pendant très longtemps. Quoi. C'était le moment qui était vécu. C'est arrivé quand la performance est devenue un peu à la mode, on a pensé aussi à faire des objets qui soient vendables. Il y a un truc comme ça qui se passe, malheureusement. Quoi.
Les marchands du temple.
Il y a un truc comme ça, je pense, ouais. Et moi, j'avoue, pour avoir discuté un peu avec Esther Ferrer, elle me disait qu'effectivement, elle a des catalogues. J'ai même fait un livre avec elle où on enregistre une performance et je lui avais demandé cette performance en particulier parce qu'elle pouvait devenir cet objet-là. Mais elle se moque de ses archives dans une certaine mesure. Elle les a. Elle n'a pas envie de travailler dessus particulièrement maintenant. Et donc, peut-être, ça n'existera pas autrement qu'en tant qu'archives qui seront peut-être consultées par personne. Mais faire des objets, c'est chouette aussi. J'aime bien. Alors, effectivement, il peut y avoir un QR code quelque part, mais moi, j'aime bien avoir un vinyle, un CD quand même, ou des choses comme ça quand il y a du son. Ouais, après, moi, je fais pas des objets trop improbables. Enfin, si, dans leur contenu, parfois, il y a des choses.
Et pas la forme.
Voilà, ça reste des choses assez simples parce que je suis pas spécialement graphiste, parce que c'est, moi, je sais faire de la mise en page, voilà, grosso modo. Mais donc, c'est inventer des choses simples, j'espère à peu près élégantes quand même, et peut-être parfois invendables. Mais c'est notre travail aussi de faire ces trucs-là qui. Sinon, on n'existe pas, seulement si on va les voir. Mais après, qui c'est qui va voir une performance ou, ça, c'est le problème de l'accessibilité d'un ensemble de choses. Dans quels espaces elles ont lieu, ces performances ou ces moments d'art-action, ou, enfin, peu importe comment on appelle ça. Et il faut bien signaler quand même que... À part des médiathèques éventuellement, des galeries, des librairies peut-être. Ce sont des lieux culturels déjà connotés, on va dire. Et donc, là où il y a un espace de liberté qui existe vraiment, au final, y a beaucoup de gens qui pourraient être concernés par cette chose-là et qui n'y ont pas accès. Et là, c'est un vrai problème parce qu'on est dans un entre-soi petit à petit. Et c'est la même chose pour la poésie contemporaine. Hein, et donc, le problème, c'est comment faire de ces objets improbables ou pas, ou de ces moments éphémères ou pas, du coup, des choses qui s'adressent vraiment. Mais ça, c'est une autre question. Mais ça fait C'est un débat qui est infini, hein, et puis il ne s'agit pas de se mettre à faire de la pédagogie ou des choses comme ça, parce que ça c'est le pire à mon avis, mais c'est comment réinvestir l'espace public ou et tout un tas de... Mais c'est, voilà, qui va le faire et comment. Donc bah, apparemment toi tu fais des choses comme ça, donc voilà. Mais bon, là je suis parti sur une autre question. Mais,
Est-ce que tu peux juste rappeler le numéro du stand où on trouve Dernier Télégramme ?
Ah, merci, oui, c'est 613, voilà. Voilà.
Tant qu'à faire, allez voir, voilà. Et Sally, peut-être justement, comme tu as revu, c'est les chambres avec ce pluriel de, pour les arts et pour les écritures. Alors, est-ce que tu, justement, comment tu envisages aussi cette question de la publication et de qu'est-ce que vous souhaitez montrer dans cette revue ?
Alors, on est quatre. Tu as donné les noms, mais je les redonne parce que c'est important. D'abord, parce que, en fait, c'est pas un collectif, mais c'est quand même une association. On est quatre femmes, deux artistes, Anis Broyer et Anna Buneau, et une romancière, Élodie Sartel, qui est en plus présente, donc je tenais à le signaler. Et en fait, le désir qu'on avait, c'était de... Ce que je disais un peu tout à l'heure, hein, c'était de travailler à l'intersection de langues, de la langue artistique, on va dire, et de la langue poétique et de la langue littéraire. C'est-à-dire vraiment comment les langues se peut-être se mélangent, coexistent, s'entrelacent, produisent des choses à leur effrangement, justement, produisent des choses différentes. Et on avait aussi comme désir de ne pas produire une revue uniquement papier, mais de déployer, en fait, des différentes formes possibles. Donc la revue Les Chambres, elle est évidemment liée à l'idée d'un espace plus ou moins intime, plus ou moins intérieur, mais c'est aussi évidemment la chambre noire, la chambre claire, etc. C'est à la fois l'espace du secret, mais aussi l'endroit à partir duquel en fait on peut aussi regarder le monde. Et donc cette revue a différentes formes qui sont ce qu'on appelle des formes vivantes, au sens où on invite à faire des rencontres en public une fois par saison, une artiste qui invite une autrice et inversement. Donc on a, il y en a quatre en tout par an, puisque c'est une revue annuelle et saisonnière. Et donc deux artistes invitent deux autrices ou auteurs, et inversement, deux autrices auteurs invitent deux artistes à présenter ensemble ce que c'est que cette rencontre, en fait. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça signifie de travailler ensemble sur les territoires des arts, on va dire. Et c'est pour ça que le pluriel est important, parce que c'est pas une forme artistique spécifique, mais différentes formes artistiques spécifiques, de même que ce sont différentes formes d'écriture également qui viennent se rencontrer. L'autre forme vivante qu'on a à proposer, c'est la forme radiophonique, en fait, qui nous semblait aussi intéressante à investir. Et donc on a un programme radio sur une radio qui est formidable, d'ailleurs j'en profite, qui s'appelle DUUUU. Et en fait on propose à des auteurs et des autrices de travailler sur leur brouillon. Donc en fait c'est des mises comment dire, c'est une sorte de mise en voix de la rature, de la rayure, de la modification. Enfin, c'est vraiment les brouillons d'écriture qui sont mis en voix, et donc c'est aussi une forme singulière, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec la lecture du brouillon ou du manuscrit, mais comment, par cette lecture ou ce manuscrit, on va réinventer une autre forme, en fait, qui est en l'occurrence adaptée aussi à la forme radiophonique. Donc ça, c'était important. Donc ça, c'est la forme vivante, et puis il y a une forme papier, entre guillemets, qui est de... On édite une collection de cartes postales qui s'appelle Les Petites Chambres, et là, c'est des images qui nous sont proposées par des artistes, mais aussi par des écrivains et des poètes. Et donc là, il y en a 24 qui sont disponibles. Et puis, in fine, il y aura un volume papier, mais qui est une des formes de la revue, en fait. Et c'est pas la forme définitive, c'est pas non plus la conclusion. C'est une des formes, et on tient vraiment à ce déploiement avec cette idée que puisque on est à l'intersection de langage et de pratique, et j'y tiens, pratique d'écriture et pratique artistique, que celles-ci, en fait, n'ont pas une seule forme, qu'elles en ont plein, et que peut-être, à l'occasion de l'évolution de la revue, on ouvrira encore à d'autres formes.
Alors pardon, c'est une question personnelle, mais là encore, j'entends Francis Ponge avec ce travail des brouillons jusque dans la radio. Est-ce que c'est un auteur qui compte ou c'est...
Ah bah, oui. Personnellement, c'est un auteur qui
compte,
voilà, oui.
Parce que vraiment, depuis tout à l'heure, j'ai l'impression d'être en terrain familier, mais donc, pratique d'écriture, les brouillons et la radio, ça a été amorcé dès les années 50 aussi, avec le travail de Ponge, sur l'expansion de ses pratiques, justement, au dehors du poème en prose qu'il avait créé avec le parti pris des choses. Donc voilà. Est-ce que Didier, tu veux ajouter quelque chose ?
Nous, par rapport à l'éphémère, en fait, Désopilant, c'est une association qui a toujours produit des choses éphémères par nature, parce que...
Pas seulement éphémères.
Ouais, mais en fait, on n'arrive pas à se professionnaliser, à rendre les choses vraiment pérennes. Donc en fait, là, on a une feuille, mais elle disparaît, elle réapparaît. Enfin, on ne maîtrise rien du tout. Donc c'est limite de l'éphémère, mais ceci dit, bon, il y a plein de choses qu'on a produites et puis on ne sait pas trop ce que c'est devenu parce qu'on ne s'en est pas vraiment occupé.
D'accord.
Mais ceci dit, pour l'éphémère en tant que tel, c'est vrai qu'il y avait les Chinois qui peignaient à l'eau. Alors, je trouve que le geste est splendide, quoi. Peindre à l'eau de la poésie dans la rue, ça raconte aussi sur l'écriture et sur ce que c'est que la création, quelque chose qui est magnifique. Donc oui, on est pour l'éphémère, mais Désopilant, c'est aussi quelque chose qui était pour faire remonter ou ressurgir dans la visibilité des choses qui sont cachées. Parce que par exemple, en face de vous, vous avez Emmanuel Baugue, là en face. Il a une petite entreprise éditoriale. Bon... nous, on aimerait que toutes les entreprises, aussi petites soient-elles, qu'elles resplendissent dans le cosmos, quoi. Et c'est vrai qu'il y a plein de trucs. Et Désopilant, c'est ça, c'est que la ligne éditoriale, les textes étaient amenés dans la feuille de chou. C'est vous écrivez, vous n'écrivez pas, vous avez des choses, éditeurs ou pas, donnez-les-nous. On les met quoi qu'il en soit dedans. L'histoire de donner une tribune visible qu'on va faire circuler. Parce que la création de tout un chacun, c'est quand même quelque chose de magnifique et splendide, quoi. Mmh. Et que là, on se promène dans la rue, on pose 2-3 questions à certaines personnes, enfin n'importe qui dans la rue, sur le poétique et sur la poésie. Et franchement, il y a des fois des questions, des réponses qui sont fulgurantes, quoi. Et nous, ce qu'on aime bien aussi, c'est faire que cet éphémère-là puisse survenir, advenir, et puis qu'on saisisse l'étincelle, quoi.
Mmh.
Voilà.
Ça m'amène presque à la dernière étape de notre discussion sur l'adresse du poème. Mais juste avant, je voulais savoir où est-ce pour le public, où est-ce qu'on trouve le Désopilant ?
Nulle part, justement. Donc vous l'avez ici, dans la rue. En fait, on le distribue dans la rue, on le diffuse dans la rue. C'est une entreprise de... Alors peut-être qu'on est soutenu par des associations qui nous aident. Par exemple, on a l'association Ingens qui nous a supportés pendant un bon moment et qui a donné un corps qui permettait d'identifier des lieux où pouvoir se procurer le Désopilant. Mais là, le Désopilant, il est dans des tiroirs de personnes qui le sortent de temps en temps et qui le diffusent. Par exemple, là, quand je vais descendre, si vous en voulez, il est à vous. Hein.
Ouais, il y a une question mystère. Il y a une question mystère.
Ah, pour celui-là, alors en fait, quand on va, et là c'est sur le public, nous ce qui nous intéresse avec cette feuille de chou, c'est d'inscrire dans l'espace public la poésie ou la question poétique. Donc on agit en pourpoème. La feuille de chou, on la donne toujours aux gens en échange de la poésie, ça vous dit quoi ? Enfin, un truc autour du poétique. Donc là, la question du jour, c'était je vous l'offre. Alors, c'était une partie de pâte à pêche. Voilà, ça c'est la pâte à pêche, pâte à physique. Donc on met le Désopilant aux faces. On va chercher le poisson poème, donc ça. Alors normalement, ça pourrait être sali. Il y a le Désopilant qui est au bout. Et on dit, je vous l'offre. Bien sûr, la personne, quand elle ne se sauve pas, elle le prendra. Et quand elle va vouloir le prendre, on va l'enlever, bien sûr. Hein, c'est le pompon de la fête foraine. Et si jamais elle se sauve, en fait, elles sont télescopiques, nos cannes à pêche. Donc on grandit la canne à pêche pour être toujours devant. C'est la course à l'échalote où... Et on pose la question, je te le donne ou je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas dit. Cette fois-ci, c'est donne-moi un événement suprêmement poétique.
Oui.
Ouais.
On a répondu, ça y est, moi.
Mais dans l'éphémère, Sally a répondu. Tu vois, j'ai oublié.
Ah
j'ai
non,
oublié.
C'était magnifique.
Bah, normalement, je le note, Marcello. Mais j'ai pas eu le temps. Ah oui. Ah oui. Ah non, bah Sally, je te laisse raconter quand même le.
C'est vrai que c'était beau.
Le suprêmement poétique de Sally. Attention.
Alors, ce n'était pas suprêmement poétique, c'était un souvenir poétique.
Un souvenir poétique.
Et j'ai quand même commencé à me demander qu'est-ce que ça pouvait être, un souvenir poétique, et qu'est-ce que c'était poétique. Mais bon, ça, c'était l'introduction. J'ai juste raconté que il y a...
quelques années.
30 ans, on va dire. Je marchais beaucoup la nuit dans Paris. Et un matin, j'arrive sur la place Saint-Sulpice, et c'est pour ça que j'y ai pensé. Il était 6h du matin, je rentre dans le café de la mairie, et là, je vois arriver sur la place Marcello Mastroianni. Donc pour moi, c'était un souvenir assez, assez émouvant, en fait. Voilà.
Une apparition.
Une apparition.
Voilà. Alors juste, voilà. Alors, la prochaine victime, préparez-vous.
Non, mais, non, c'est pas une
Marie,
victime.
Marie, tu peux raconter ton souvenir aussi, que je ne sois pas la seule, quand même.
Ah, bon, alors, je raconte.
Non, c'est pas la peine, non.
Non, mais...
public, vous voulez que Marie raconte son suprême de poésie? Il y a une petite sauce avec, c'est magnifique.
Non. Bon, alors, là, j'ai répondu à cette question que mon souvenir poétique, c'était à Grignan avec Philippe Jacoté autour d'un dîner. Et Philippe Jacoté, qui m'impressionnait beaucoup, mais qui était la gentillesse même, m'a appris... au détour de la conversation, que le mot huppe venait du cri de la huppe. Et on s'est interrogé sur tous ces cris du monde qui ont parfois donné des mots. Alors les Grecs en parlent déjà, hein, c'est pas... Mais voilà, donc mon souvenir poétique, ou le souvenir que je trouvais particulièrement poétique, c'était ce cadeau de Jacoté. Voilà.
Et alors, dans le bus 89, j'arrive avec ma canne à pêche et je vois un monsieur. Et je lui dis, cher monsieur, accepteriez-vous, en échange de ce magnifique désopilant, de nous livrer un suprême de poésie? Qu'est-ce qui est le plus poétique pour vous? Et là, le type, de but en blanc, il dit... Alors, il commence par me dire, try if you want. Bon, j'ai dit, ok, je vais essayer. Alors, c'est quoi le meilleur souvenir? Il dit tout de suite, la Vierge Marie. Wow. Bon, ceci étant, après, il m'a fait la liste de 400 églises qu'il avait visitées. C'était pas mal, hein, suprême. Mais voulez-vous entendre le suprême souvenir de Fabrice? Est-ce que vous voulez l'entendre, le suprême souvenir là-haut à droite? Ah ouais, non, vous êtes sûr? On n'entend rien. Allez.
Tu en as un?
Bon, bah, il m'a posé la question tout à l'heure. Alors j'ai...
Ça va. On a
souvenir du marché. Bah, comme on parlait un peu de performance et tout ça, j'ai pensé à ma première rencontre avec Serge P ici. Et je vais essayer de la faire courte, quoi. Mais c'est Richard Martel, les éditions Inter, qui était ami avec Serge, qui me présente Serge. Et moi, je me mets, je ne sais pas pourquoi, à lui parler en espagnol. Et donc Serge me dit, bah, demain, tu as un manuscrit sur ton stand. Il me dit, mais tu parles espagnol avec l'accent d'Amérique du Sud? Deux manuscrits. Alors, ce n'est pas vrai, je ne parle pas avec l'accent d'Amérique, mais bon. Et après, mais on va manger ensemble trois manuscrits. Et donc, le lendemain, il y avait deux manuscrits. Et on les a fait ensuite. Et il m'a invité chez lui. Et voilà, voilà, voilà.
C'est un beau souvenir aussi. C'est encore une rencontre. Magnifique. Juste avant de passer à cette question de l'adresse, Sally, les chambres, on trouve où comment?
Alors,
on fait pour lire?
Pour l'instant, oui, les chambres ne se trouvent pas en forme papier. Les cartes postales sont disponibles, mais sur demande. Et j'ai dans mon sac, donc ceux qui sont intéressés, des flyers qu'on a édités pour... voilà. Donc en fait, pour ceux qui seront intéressés pour savoir ce que c'est que cette revue, je distribuerai tout à l'heure.
Bon, merci beaucoup. Et donc, oui, on pourrait terminer, puisqu'on parlait de ces expériences de rencontres et d'expériences sensibles dans l'écriture, puis sur scène, etc. Je voulais savoir, peut-être pour terminer notre réflexion, votre conception de votre lectrice, de votre lecteur, de votre public, si j'ose dire. Là, on en a un aujourd'hui, un vrai. Peut-être qu'on peut vous entendre sur ces questions. Et puis, plus largement après, tu parlais dans la brochure de se destiner à un public de non-poètes. Alors, ça m'a beaucoup intriguée. Je vois bien aussi la dimension politique qu'il y a derrière. Mais peut-être qu'on pourrait commencer soit Sally, soit Fabrice sur cette question de... Là, on peut parler de la revue. Quel est votre horizon à qui vous pensez quand vous fabriquez votre travail, toutes les quatre. Et puis Fabrice aussi, entre les livres à écrire et puis les livres à lire ensuite en public, si vous avez comme ça une vision ou une idée de la personne pour qui vous écrivez tous les trois, on peut peut-être terminer là-dessus. Alors c'est troublant, comme non, ça va ?
Oui, ça va. Ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Parce que malheureusement, je pense pas spécialement au public quand je fais quelque chose. Quoi.
C'est intéressant.
L'idée, c'est pas de s'adapter à un public, c'est de faire ce qu'on a à faire. Et potentiellement, on imagine que c'est partageable. Et si c'est partageable, ensuite, il se passe quelque chose ou pas. Mais le problème, c'est de partager avec qui. Et là où nous sommes, on appelle ça une niche, je crois. Et je trouve, c'est un constat un peu regrettable, mais on est quasiment dans un entre-soi, quoi, et qu'il est très difficile de pouvoir rendre accessible le travail qu'on fait. Et moi, je pense qu'il peut l'être, quoi. Et après, c'est l'ensemble de la chaîne du livre qui est concerné, on va dire, mais plus que ça, quoi. C'est comment on peut créer de l'intérêt. Je sais pas comment il faut faire. C'est une question que j'essaye de plus me poser parce que sinon on n'avance plus, quoi. Et parce qu'il est évident, enfin en ce qui me concerne, que je vais pouvoir être attiré par des projets assez improbables et donc ces projets-là sont encore plus difficiles. C'est encore plus difficile pour ces projets de trouver un lecteur ou des possibilités de lecture publique. Et en même temps, il me semble terriblement important que ces types de projets existent. Et l'idée, c'est toujours, à mon avis, rester dans quelque chose d'exigeant, mais dans le très bon sens du terme. Enfin, privilégier, quoi qu'il arrive, un nivellement par le haut plutôt qu'un nivellement par le bas, quoi. Et j'ai pas envie que, par exemple, la poésie soit un truc à la mode, quoi. Pour moi, c'est pas fun, la poésie, quoi. Ça peut pas être à la mode. C'est du boulot, quoi. Mais dans le bon sens du terme, c'est le temps qu'on va prendre pour aller découvrir quelque chose, le temps qu'on va prendre pour lire. Et aussi apprendre à lire, parce qu'on peut apprendre à lire de la poésie. C'est un truc qui se crée, et on ne lit pas de la poésie comme on lit un roman, et comment on se fait une culture, et dans le très bon sens du terme, c'est-à-dire savoir qu'il y a une tradition qui existe, qu'il y a des traditions qui existent, et comment on se nourrit de ça, avant de nous-mêmes, à un moment, se dire qu'on peut proposer aussi quelque chose. Mais nous sommes des héritiers, quoi. Nous travaillons avec ce qui existe déjà, et je pense que c'est très important, ça. Qu'il y a ce travail-là à faire pour chacun d'entre nous. Hein,
Donc c'est plutôt un lecteur ou une lectrice à conquérir, un public voilà, qui est toujours à trouver.
Oui, puis l'idée, c'est aussi à trouver dans le sens où, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est lui qui termine le travail qu'on a commencé, quoi. Donc j'aime bien cette idée-là. Mm-hmm.
Sally, vous avez pensé...
Oui, alors on pense toujours à qui on s'adresse. Enfin, je pense qu'on fait les choses évidemment par ce que tu disais, par une forme de nécessité et avec une exigence. Mais dans la mesure où on déploie ce travail sous différentes formes, là je parle de la revue, hein, évidemment on s'adresse à un certain public. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de croiser les publics. Et c'était aussi un des constats qu'on s'était fait. C'était que, alors, sans généraliser, parce que c'est pas vrai de manière absolue, mais qu'il y avait pas beaucoup de porosité entre le milieu, on va dire, de l'art contemporain et le milieu de la littérature ou de la poésie contemporaine. Et que si, bien sûr, ils se rencontrent, en fait, ils se connaissent pas. Il y a des écarts, en fait. Il y a des écarts qui sont des écarts temporelle et parfois même des anachronismes. Et il y a un des enjeux de la revue, c'était aussi de les faire travailler ensemble et que le public le public de l'art rencontre celui de la poésie et ou de la littérature et inversement que le public de la poésie rencontre celui de l'art. Et que à cet endroit-là, en fait, quelque chose aussi se passe. c'est-à-dire d'échanges sur des réflexions qui sont des réflexions contemporaines, hein, sur les manières d'agir. Tu parlais de puissance d'agir. Oui, sur les manières d'agir aujourd'hui par des formes, quelles qu'elles soient, et comment ces formes-là peuvent dire quelque chose du monde. Donc c'était aussi un des enjeux de ce travail commun qu'on faisait, parce qu'on est chacune à un endroit différent de la pensée et de la création, et on voulait essayer de voir comment ça peut fabriquer quelque chose, de faire se rencontrer ces publics-là.
Oui, mais c'est un prolongement intéressant. Et alors, justement, pour peut-être, je ne sais pas si on va terminer là-dessus, mais je voulais quand même élucider cette question de s'adresser à un public de non-poètes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça rejoint un peu ce que disait Fabrice sur l'entre-soi. Sortir de l'entre-soi, essayer toujours de repousser la limite.
C'est-à-dire que le désopilant, y a pas de, mais, enfin, un bon lieu pour pouvoir le diffuser et discuter de la poésie, c'est à la sortie d'un stade de foot. Se rendre dans des endroits où a priori les gens disent non, poésie, non, y être. Et je me dis que faire s'inscrire partout pour que le poétique ou le poème soit présent et qu'il soit présent dans nos univers, pas seulement sur la place Saint-Sulpice, mais que ça puisse irradier partout, c'est pas mal. Et ce qui fait que coller des poèmes dans la rue, ça fait partie. Toi, rencontrer des gens par des poèmes qui sont collés, c'est offrir, même à celui qui dit tiens, la poésie, ça me concerne pas, c'est lui offrir un espace de rencontre, des espaces avec le désopilant, c'est des espaces de dialogue avec des personnes qui vont dire oh non, la poésie, c'est pas pour moi, mais au bout d'un moment, en discutant avec eux, on discute quand même autour du poétique ou autour du poème, on rencontre des choses et je me dis, on se dit, on laisse aussi quelque chose qui s'appelle poésie ou poème, un mot, une vibration qui circule le plus largement possible, quoi. Donc voilà.
Mais en fait, ce que j'entends, c'est deux choses. Alors, je vais reprendre Ponge, hein, pardon, mais c'est un peu une marotte personnelle. C'est à la fois sortir, pour ce qui est des poètes entre eux, c'est sortir du ronron poétique. C'est ce que Ponge appelle le ronron poétique, c'est-à-dire toujours proposer de nouvelles formes, de nouveaux supports, de nouvelles portées sur scène, etc., pour ne jamais s'enfermer dans l'habitude, dans le ronron des paroles, dans les discours préfabriqués, etc. Et d'autre part, c'est essayer de toujours provoquer un renouveau par une rencontre, par une surprise, etc. Donc ce sont deux choses, hein. Il y a la sortie du ronron et il y a le pousser toujours plus loin, ou la remise, tu disais, la remise sous le temps de l'établi sur la table pour continuer à travailler et à avancer. C'est pour résumer à peu près ce que vous avez voulu suggérer, parce qu'on pourrait parler encore longtemps. Et c'est vraiment très très intéressant. Je crois qu'il y avait une question. Je ne sais pas si on aura le temps, mais oui, je pense. Alors la question, je traduis.
J'ai entendu que les participants de cette table ronde avait un problème avec le public, au sens ce public, quelle est sa demande et est-il vraiment demandeur, au fond. Je me rappelais le mot d'André Breton, la poésie sera faite par tous ou ne sera pas faite. La citation m'échappe un peu, mais c'est à peu près ça. C'était la poésie sera faite ou sera écrite par tous. Donc elle nous concerne tous, public ou non public, je dirais. Poète, non-poète, artiste ou pas, ou non-artiste, enfin, étant donné que chez les non-poètes ou chez les non-artistes, il y a toujours une part de poésie, une part d'artistique qui s'ignore, certainement. Alors, le public, c'était j'avançais un peu une réponse, pas une réponse, mais une piste. Parmi tous les publics que vous avez énoncés, bien sûr, il y a le client, mais votre activité ne se résume pas au client, à la relation marchande, même s'il faut bien vivre, je l'entends. Elle va au-delà, et je vous propose le public des institutions de santé, médico-sociales ou même psychiatriques. C'est-à-dire que là où justement la poésie ou l'artistique manque le plus, du fait d'un certain réel de la vie quotidienne, un peu égale à elle-même et un peu trop monotone, et même parfois, je dirais, mortifère, et bien voilà, là, je trouve que la poésie et la pratique artistique auraient vraiment sa place avec l'introduction de la dimension que vous avez énoncée quand vous dites « agir ». Là, je trouve que ça pourrait s'adresser à ce public-là que j'ai dit.
Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Non ? Bon, c'est bon ?
Merci.
Bon, alors je remercie les trois intervenants, donc Fabrice Caravaca, Sally Bonne et Didier Philippotto, d'avoir accepté de répondre à mes questions. Et donc je vous invite à découvrir leur travail dans le cadre du marché de la poésie et au-delà.
Merci Marie.
À très bientôt.
Merci Marie.
Merci Marie. Et donc nous retrouvons les éditions Dernier Télégramme. Tu peux me rappeler ton numéro de stand, s'il te plaît. Les éditions Dernier Télégramme sont en stand 613. Des opinions cette année n'avaient pas assez de monde pour tenir un stand. Donc il faudra aller à la pêche.
C'est maintenant tout de suite. Voilà. Tout doit disparaître.
D'ici à 17h15, nous aurons Lisette Lombé qui va être en lecture sur la scène du marché de la poésie. Et puis après, dans la suite du programme, nous aurons à 17h45 la remise du prix Van Gogh, à 18h15 la remise du prix Copo, à 18h45 la bourse Gina Chenoir, puis à 19h20, ce sera notre troisième soirée consacrée à la poésie palestinienne. Donc là, Lisette Lombé à 17h15. D'ici là, on va remettre la scène un petit peu en ordre et puis on va vous laisser ou respirer un peu ou circuler dans les allées du marché. Merci.